Comment l'agonie des martyrs est-elle perçue aujourd'hui? De quelle manière l'art la restitue-t-il?
Martyr à l'agonie, du supplice à la transfiguration, c'est le thème du colloque qui s'est déroulé du 25 au 27 mars à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Ces deux organisatrices, je vais y arriver, pardon, ce matin, sont les invités de Radio Présence. Bonjour Grâce Porterie.
Bonjour madame.
Vous êtes doctorante en lettres classiques à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, justement, et bonjour Clarisse Trévert.
Bonjour.
Vous êtes aussi doctorante, mais en littérature française, dans cette même université. Alors l'objectif de ce colloque, c'était de réfléchir à un instant bien particulier, celui de l'agonie comprise comme un seuil, c'est-à-dire le passage d'une situation de pleine souffrance à un état transfiguré. Je reprends vraiment les termes de l'intitulé de ce colloque. Qu'est-ce qui a suscité un tel sujet de recherche ?
Alors, tout d'abord, Clarisse, on a eu du mal à parvenir effectivement à ce point nodal qu'on a fini par travailler lors du colloque, puisqu'on partait sur des thèmes comme le héros à l'agonie, le héros en souffrance, la violence du corps. Et progressivement, à force de réflexion, on s'est dit que c'était vraiment cet aspect-là qu'on voulait travailler, parce qu'il était spécifique vraiment au martyr, hein, ce point de bascule entre un corps qui souffre et un état effectivement transfiguré. Par,
même si on ne le voit pas.
Exactement, quelque chose d'invisible, alors qui en art peut être représenté par la lumière, mais effectivement, voilà, un état invisible d'un basculement, d'un passage entre un corps souffrant et quelque chose d'autre, peut-être que l'esprit qui vient venir soutenir le corps dans les moments les plus rudes de l'existence.
Ouais. Et c'est un sujet qui avait été partiellement traité dans d'autres colloques, mais finalement, vous n'étiez pas arrivé à ce point de bascule dont vous parlez, ce fameux seuil.
Alors, il avait pu être abordé, effectivement, la question du corps souffrant, et aussi peut-être l'aborder sous un plan un peu métaphysique, c'est-à-dire quand on ne réduit pas le corps à lui-même, mais qu'il vient nous parler d'autre chose, de quelque chose d'impalpable, de quelque chose d'insaisissable. Mais effectivement, la question à proprement parler du martyr en lui-même, et surtout le traiter de façon exhaustive en passant par finalement différentes disciplines, ça n'avait jamais été fait. Là, effectivement, l'intérêt de ce colloque, ça a été de traiter cette question à travers des disciplines très différentes, ce qui permettait finalement de juxtaposer les regards et de faire dialoguer les points de vue. Donc on a été des lettres classiques, des lettres modernes, des historiens de l'art, des théologiens, des philosophes, des cinématologues, des musicologues. Donc en fait, c'est cette pluralité de points de vue qui a permis finalement de faire émerger des points de convergence pour essayer d'apporter une réponse sur un phénomène qui est quand même très insaisissable.
Oui, c'est ça. Alors, vous allez garder la parole, Grâce Porterie, parce que je voulais vous demander, puisque vous êtes intervenue à propos d'une réécriture chrétienne du martyr des Maccabées. Alors, on sait bien que vous êtes dans un environnement universitaire, donc laïque, mais vous avez quand même traité cet aspect de l'approche chrétienne. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ?
Alors, il se trouve que effectivement, les textes chrétiens font partie des objets d'études à part entière dans le milieu universitaire. Le texte que j'ai traité est un poème latin du 5e siècle, qui est une réécriture en vers épique. Alors, le vers épique, c'est le vers qui est propre à l'épopée. L'épopée, c'est Homère, c'est Virgile. Et donc, cette réécriture épique du martyr des Maccabées, c'est un phénomène qui est assez courant, en fait, dans l'Antiquité tardive, à partir du 4e siècle, en fait, pour vulgariser, finalement, les textes chrétiens, et notamment donc, le Nouveau Testament et après l'Ancien Testament.
Plutôt l'inverse.
Voilà. Bon. Alors, on a commencé par...
Vous avez commencé par le Nouveau.
En fait, l'Antiquité chrétienne a commencé par vulgariser le Nouveau Testament.
D'accord.
Et ensuite,
pardon,
l'Ancien Testament. C'est pour ça, en fait.
D'accord.
C'était la logique inverse. Parce que l'urgence, d'abord, ça a été l'urgence d'évangéliser. Et puis, en fait, à la fin du 4e siècle, l'Empire est désormais chrétien. Et donc, on peut commencer à aller un peu plus loin et aussi, finalement, à vulgariser les textes de l'Ancien Testament. Donc, en fait, ça s'est fait à l'envers. Et comment est-ce qu'on fait pour vulgariser ? Eh bien, en fait, on va chercher dans le terreau commun de la culture de la romanité, qui est en fait les auteurs païens. Donc Virgile, par excellence. Et donc, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais on va rendre l'Ancien et le Nouveau Testament un peu plus sexy, entre guillemets, en le modelant dans le vers virgilien, en fait. Et c'est exactement l'objectif de ce poème-là. Ça a été de modeler dans un vers virgilien le martyr des Maccabées. Et dans le cas de notre poème, moi, ce que j'ai entendu démontrer, c'est que la réécriture, donc dans ce vers virgilien du martyr des Maccabées par un auteur qu'on appelle le pseudo-Hilaire, donc cette réécriture, elle avait pour but finalement de faire réfléchir sur le sens même du martyr. Pour le chrétien du 5e siècle, en fait, il n'y a plus de martyr. Il n'y a plus de martyr, c'est terminé. Mais pour autant, le martyr a toujours du sens. Et il a du sens parce qu'au quotidien, le chrétien est invité à avoir une vie de martyr, une vie d'ascèse,
une vie d'offrande,
exactement. Et donc, c'était l'objectif de ce poème-là au 5e siècle.
D'accord. Alors, de nombreux tableaux représentent des scènes de martyrs. Alors, si on s'arrête juste à Toulouse, il y a le martyr de Saint-Étienne ou de Saint-Saturnin. De quelle manière le martyr est-il représenté dans l'art ?
Alors, on a eu plusieurs interventions lors de ce colloque, comme le rappelait Grâce au début, en cinéma, en peinture, aussi à l'opéra. Et chaque art a ses spécificités. C'était intéressant, on a eu une intervention, par exemple, de Lou-Andréa De Paul, qui a parlé du visage de Jeanne d'Arc comme quantique des degrés du supplice à la transfiguration, et nous montrer le travail cinématographique du traitement de la montée au bûcher de Jeanne d'Arc. Mais on a aussi, par exemple, Léonie Marcaille, qui a traité des martyrs entre beauté féminine et représentation sacrée, avec un travail très genré de la question du martyr, en montrant qu'effectivement, le corps féminin allait être peut-être plus érotisé, rendu plus sensible qu'un corps masculin, par exemple. Donc, c'était particulièrement intéressant. Et Tama Monagé, qui a travaillé sur le martyr et la peur face à la mort, étude comparative de Jeanne d'Arc au bûcher et dialogue des Carmélites, travaillait là sur des opéras. Alors, c'était montré comment la musique, le rythme pouvaient évoquer la fin de vie douloureuse, l'agonie du martyr, qui a fait écho aussi à un événement culturel que nous avons organisé.
Oui, c'est ça, il y a eu un concert à Saint-Saturnin.
Tout à fait. Tu veux peut-être...
Alors, Grâce.
Alors, l'idée du concert, elle nous est venue parce que finalement, avec Clarisse, nous nous sommes dit nous allons parler du martyr, nous allons réfléchir au martyr, certes, mais le martyr, avant d'être un fait intellectuel, un fait de l'esprit, c'est avant tout un fait qu'on vit dans sa chair.
Oui.
Et
c'est
exactement.
Le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Exactement. Donc l'idée, ça a été de finalement de proposer un événement qui puisse aborder le martyr de façon beaucoup plus sensible. Et donc nous avons sollicité Michel Bouvard, qui nous a fait l'honneur de sa présence, qui a été aussi secondée par son épouse Yasko, et qui donc avait composé un programme spécifiquement, penser autour de la passion du Christ, puisqu'en fait, il n'y a pas de pièce musicale proprement consacrée au martyr, mais voilà, finalement, il est revenu au premier martyr chrétien, c'est-à-dire à celui qui donne tout son sens à tous les autres martyrs chrétiens, à savoir la passion du Christ. Et donc, il a fait un programme à partir de Bach, de Liszt et de César Franck, et nous a donné à entendre les belles orgues de Saint-Sernin sur la question.
Oui, parce que Michel Bouvard, précisons-le, c'est le titulaire des orgues de cette basilique.
Tout à fait.
À Toulouse. D'accord. Alors, vous vous êtes appuyé, vous, Clarisse Trébert, sur la lecture de L'homme sans nom de Pierre-Simon Ballanche. Ce récit traite des derniers instants de Louis XVI et donc de sa mort. Qu'est-ce que ce martyr apporte à votre réflexion ?
Alors oui, L'homme sans nom est donc un roman de Pierre-Simon Ballanche qui est peu étudié aujourd'hui, dans le secondaire pas du tout, et à l'université très peu. Alors c'est un travail qui m'a apporté en tant que chercheuse, mais aussi en tant que citoyenne, puisque c'est un roman réellement politique, et on pourra y voir les résonances que l'on veut avec notre époque, où Pierre-Simon Ballanche, donc contre-révolutionnaire, va s'inscrire dans le martyr vraiment du roi, cette légende du roi martyr, pour en faire l'éloge, pour le comparer au Christ. Mais toute l'originalité de ce roman est de montrer aussi que le bourreau, lui aussi, va passer par à la fois la culpabilité, mais aussi l'expiation, pour rappeler que dans la religion chrétienne, tout coupable et miséricordieux. Donc Ballanche veut, en montrant cette figure de rédempteur, hein, de criminel rédempteur, montrer à la fois qu'il se propose d'être un abolitionniste à une époque où on guillotine encore, hein, au 19e siècle. Donc il veut appeler à l'abolition de la peine de mort, mais aussi à une période de rédemption collective après la terreur, mais aussi après les troubles politiques. On est à une époque, 1820, c'est la date de publication de ce roman, où il y a eu les 100 jours de Napoléon Bonaparte, il y a des troubles en Europe, hein, l'Europe bouillonne, mais en plus, le duc de Berry a été assassiné par Louvel, qui va passer sous le couperet de la guillotine, et donc il s'agit pour Pierre-Simon Ballanche de parvenir à l'apaisement en montrant que même les coupables, même les gens qui ont guillotiné, peuvent être dignes de pardon. Mmh.
Vous vous êtes interrogé au cours de ce colloque aussi sur la posture de l'artiste. Comment il est bousculé dans son art? Est-ce que sa place dans la société peut être remise en cause? Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de cet aspect?
Alors effectivement, on a eu des communications. Je pense que peut-être, finalement, on s'est peut-être un peu tous questionnés sur là-dessus.
Ah oui.
Quel que soit finalement le matériau,
la discipline,
quelle que soit la discipline que l'on a traitée, je pense qu'on a peut-être eu un peu tous à se questionner là-dessus. Peut-être plus particulièrement les intervenants qui se sont concentrés sur les récupérations politiques. Effectivement du martyr. Peut-être que tu veux en dire un mot, toi, Clarisse.
Oui, alors c'est sûr qu'en littérature il y a eu cette récupération politique, mais on a eu aussi des interventions qui sont venues parler par exemple des images de martyrs dans les gravures du tailleur de Grafica Popular de Mexico, avec l'intervention de Noah Buffavant par exemple, ou une intervention sur le cinéma de Fassbinder avec Aurel Rotival. Et il y avait vraiment cette idée aussi, oui, que le politique va récupérer cette forme extrêmement parlante, extrêmement sensible, pour non plus s'inscrire dans un discours peut-être uniquement métaphysique, mais aussi tenir un discours politique des martyrs qu'on a aujourd'hui, hein, dont on va parler aussi à l'heure actuelle, hein, les martyrs politiques, martyrs des causes sociales, par exemple.
Mais dans le cas de l'intervention de Noah, ce qui était intéressant, c'est que finalement, ceux qui ont produit ces fameuses gravures, finalement, sont complètement anti-chrétiens, anti-catholiques, et pour autant récupèrent cet imaginaire-là. Est-ce qu'ils en ont conscience ou non? Finalement, ça a été l'objet d'un grand débat. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une espèce d'imaginaire collectif qui devient un inconscient collectif dans lequel finalement les auteurs vont puiser et avec lesquels ils rentrent en conflit, parfois de façon pas forcément franche et consciente. Mais voilà, il y a cette espèce de brassage, de finalement quelque chose qui se remue dans les profondeurs et qui n'est pas forcément conscient. Les interventions qui se sont concentrées sur les auteurs du 19e, en revanche, que ce soit l'intervention d'Alessandro Bido sur Hölderlin ou même celle de Maxime Saillé sur Victor Hugo, ont peut-être abordé de façon plus franche et moins tendue cette question justement de l'artiste qui est hanté par cette espèce de mythe du martyr, mais qui en a vraiment pleinement conscience et qui vit tout son art en le vivant de façon martyriale.
Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez voulu pour ce colloque inviter des étudiants en prépa, c'est ça, Cagne et Hippocagne,
tout à fait.
Du lycée Fermat. Qu'est-ce que leur présence a apporté particulièrement?
Eh bien, ça a apporté déjà un dialogue, hein, entre l'université et le secondaire qui nous semble essentiel, parce qu'on cherche vraiment, en tout cas grâce à moi, à décloisonner un petit peu nos recherches pour montrer que ça ne se passe pas uniquement dans un laboratoire à la fac, mais que ça peut concerner aussi des étudiants, des étudiantes, peut-être même des lycéens. Là, ce n'était pas le cas, hein, mais ça pourrait aussi. Et parler un peu de la recherche. Pour déconstruire peut-être aussi le mythe du chercheur qui est dans sa tour d'ivoire, pour s'adresser...
Est-ce que vous avez eu un retour de leur part?
Alors, on a eu un retour du professeur, de leur professeur, hein, qui effectivement nous a dit qu'il allait travailler avec eux un groupement de textes d'auteurs chrétiens. Et alors, ce qu'il faut en fait bien voir, c'est que ce sont des futurs... pour la plupart, ce sont de futurs chercheurs.
Et oui, c'est
voilà,
ça.
Un Cagneux, c'est quelqu'un qui se destine soit à intégrer Normal Sup, soit après à retourner dans le circuit universitaire et qui après, certainement, fera un master de recherche, pourquoi pas un doctorat. Et donc, effectivement, ça peut faire naître des vocations à la recherche.
Voilà, merci beaucoup, Clarisse Trébert.
Merci.
Merci Grâce Porterie.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes les organisatrices du colloque Martyr à l'agonie, du supplice à la transfiguration qui s'est tenu à l'Université Jean Jaurès du 25 au 27 mars. Vous en avez dressé le bilan ce matin. C'était le grand entretien sur Radio Présence. Merci de l'avoir suivi.